Nous commençons par lire dans Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9, c'est écrit ceci. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui, c'est aller au maximum de ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Voilà, l'homme a tendance à s'arrêter au moment où il éprouve une certaine satisfaction, il s'arrête. Alors que Dieu est infini, l'homme est aussi, a été créé infini. La preuve, on voit l'évolution technologique, nous montre que chaque année, ça s'améliore. L'homme a été créé comme ça, ça ne doit pas s'arrêter. Le monde même, comme on le dit souvent, le monde nous enseigne. Donc rien ne s'arrête dans le monde. Quelqu'un qui, des années 1600 qui viendraient aujourd'hui, sera super étonné parce que les choses évoluent. Et dans les choses de Dieu, c'est encore réclamé par le Seigneur. Il veut qu'on aille loin. Il dit que celui qui se relâche, qui s'arrête, est frère de celui qui détruit. Parce que quand nous, on s'arrête, quand on se relâche, ben, les esprits, eux, ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent à détruire, ils continuent à frapper. C'est pourquoi nous, quand on s'arrête, ça veut dire qu'on a accepté d'être détruit. On doit aller toujours de gloire en gloire. Et on va lire encore un autre texte dans Jérémie 48, 10. Jérémie 48, 10. Il est écrit ceci. « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui prive son épée de sang ou bien qui retire son épée du carnage, dans d'autres versions. » Ça veut dire que tu as déjà gagné, mais il y a encore des choses à gagner. Tu te dis, mais ce que j'ai gagné est suffisant et tu t'arrêtes à un niveau. Il est écrit, maudit soit ce genre de personnes qui s'arrêtent à un niveau alors qu'il y a encore d'autres choses à conquérir. Parce que les choses que tu n'as pas conquises, les endroits où tu n'as pas touché, il y aura un retour. Les gens viendront t'attaquer à partir de cet endroit-là. Donc on ne peut pas s'arrêter. On doit aller jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est ça le thème, parce que on constate que beaucoup se sont laissés avoir dans une logique humaine. On a une salle, souvent quand on a acheté la salle, un groupe de chrétiens a acheté une salle. Donc ils se sentent arrivés. C'est bon, on a réglé le problème. Entre-temps, les gens ont des entreprises. Chaque chrétien a un boulot et puis on s'arrête là. Et qu'est-ce qu'on remarque dans ces églises? Les fausses doctrines viennent, la mort spirituelle vient, touche les gens et plus tard on apprend soit que l'église vraiment s'est engagée dans les voies du diable, soit elle est détruite. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Soit c'est la voie du diable, soit c'est la destruction. À cause du relâchement, les gens se relâchent. Les gens se contentent de ce qui se passe. Or, Dieu, il dit, quand tu retires ton épée du carnage, alors que tu peux conquérir encore des territoires, tu t'arrêtes à la salle, ben, tu es maudit. Ce n'est pas moi, c'est écrit. C'est comme ça. Bien-aimé, il y a des conquêtes à faire. Il y a le monde à sauver. Et c'est grand, le monde à sauver. Dernièrement, on priait pour la Chine, on priait pour l'Inde. Chacun de ces pays-là a au moins 1 milliard de personnes à sauver. Donc vous imaginez, Dieu qui est là, il t'a donné la puissance et il voit que, bon, depuis que dans votre salle, c'est rempli, tu te reposes, tu ne fais plus rien, tu gères seulement ce qui t'est donné. Mais Dieu est en colère parce que lui, il t'a donné la puissance pour sauver le monde entier. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que lui, il dit. Et quand il voit qu'il t'a donné cette puissance, finalement, toi, tu te contentes d'être diacre quelque part. Tu te contentes d'être pasteur quelque part, là où il y a la moquette, tout est bien fait. Tu es content d'avoir un petit pouvoir, d'aller de temps à autre manger chez les frères et sœurs, où tu es bien accueilli. Donc Dieu se dit, mais voilà, ce type n'a pas compris ma mission. Il dit, il faut aller jusqu'au bout. Dans Philippiens 1.6, c'est écrit aussi, Philippiens 1.6, Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Donc, quand Dieu commence, il va jusqu'au bout. Il poursuit jusqu'à l'achèvement. Malheureusement, beaucoup ne saisissent pas cela. Et surtout, excusez-moi les sœurs, mais c'est surtout, on remarque beaucoup, dès qu'elles se marient, c'est fini. Donc, c'est le ministère dans la poche, l'œuvre de Dieu dans la poche, maintenant c'est sa famille. Et ce n'est pas bon, parce que Dieu a beaucoup de choses à faire avec chaque chrétien. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Parce que notre Dieu est infini, sa puissance est infinie, ses réalisations sont infinies. Et il n'est pas content quand il voit que nous ne nous, nous laissons pas utiliser au maximum, nous nous arrêtons quelque part. Vous vous souvenez de l'histoire dans, je crois que ça doit se trouver dans les livres de rois, hein. En tout cas au chapitre 11, je ne sais pas si c'est un roi ou deux rois, mais au chapitre 11, il est question d'un roi à qui on demande de lancer des flèches. On dit lance des flèches. Et lui lance trois fois. Qu'est-ce que le prophète lui dit? Oh, on te demande de lancer des flèches, toi tu lances trois fois. Tu aurais dû lancer plusieurs fois. Maintenant, puisque tu n'as lancé que trois flèches, ben, tu ne vas battre les Syriens que trois fois. Mais ça veut dire quoi? Les autres combats qu'il va gagner, c'est les Syriens. On te dit, lance des flèches. Et c'est ce que Dieu nous dit. Demande-moi les nations, je te donnerai un héritage. Il nous a donné une infinité de promesses et de grandes promesses. Mais il voit qu'on se contente de la promesse concernant la santé, concernant le mariage, concernant la famille. Alors que lui nous a donné plus. C'est pourquoi il dit maudit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas compris Dieu. C'est quelqu'un qui ne sait pas qui est Dieu. Quand on sait qui est Dieu, on sait qu'il veut sauver tous les hommes. 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Donc on ne peut pas se contenter d'une région, d'une ville, d'une salle surtout. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens bâtissent leur projet dans une salle alors qu'il y a le monde entier, l'humanité entière à gagner. Ce n'est pas normal. Et Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Et il y a des gens aussi qui bâtissent leur projet dans un poste, dans l'église. Ils chantent, ils s'arrêtent là. Ils prêchent, ils s'arrêtent là. Alors que Dieu veut aller plus loin avec la personne. Et Dieu dit, non, on ne peut pas s'arrêter à un truc, puisque moi je suis infini. Vous savez, je peux lire des versets, il y en a des passages et des passages. Lorsque Jésus lui dit, il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18, nous qui observons le Seigneur, nous sommes transformé en la même image, de gloire en gloire. Tout ça, ce sont des passages qui nous montrent que le chrétien ne peut pas s'arrêter à un truc. Ça doit toujours aller plus loin. On se souvient de Nathanaël, quand Jésus lui a dit, « Mais je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Nathanaël a dit, « Mais ce n'est pas possible. Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Jésus a dit, « Juste pour ça, mais tu verras de plus grandes choses. » Juste pour ça. Donc il y a des gens qui sont accrochés, juste ils parlent en langue. Donc c'est lui, il est arrivé dans la vie, donc il a tout fini. Un autre, parce qu'un jour il a prié pour quelqu'un, il a été guéri, c'est devenu ses galons, sa médaille, donc il va montrer partout, j'avais prié pour un tel, il a été guéri. Mais Dieu dit, je veux faire plus que ça. Il faut être disponible et disposé à aller plus loin, bien-aimé. Il y a des gens qui, puisqu'ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne sont pas dans l'adultère, ben, c'est bon pour eux. Mais ils oublient que le Seigneur avait dit au jeune homme riche, vends tous tes biens et suis-moi. Parce que ce monsieur-là était correct dans tout. Parce qu'on lui a dit, est-ce que tu obéis à la loi? Il dit, je suis correct dans tout. Je ne vole pas, je ne mens pas, je respecte mes parents, je donne l'argent au temple. Donc je suis correct dans tout. Et Jésus lui a dit, il faut aller jusqu'au bout de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, ce n'est pas seulement ne pas voler, ne pas mentir, ne pas taper sur les gens. L'appel de Dieu, c'est donner tout à Dieu, vivre pour lui. Alors, vends tous tes biens et suis-moi. Si vraiment tu veux servir Dieu. Il est écrit, le monsieur a fait demi-tour. Et beaucoup font demi-tour sans s'en rendre compte. Ils pensent que, bon, ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne ceci. Bon, maintenant que je suis correct, je vais quand même au culte aussi. On ne doit pas me demander plus que ça par Dieu. Mais eux, ils ne vont pas dire Dieu, ils vont dire c'est les hommes. Qu'on ne me demande pas plus à l'église. En réalité, c'est Dieu qui demande. Ce n'est pas un homme qui peut te demander. C'est Dieu qui demande. Et c'est des gens qui vivent comme ça. Ils sont secs, tout en étant corrects. Mais ils sont secs. Ils ne produisent pas de fruits. Dieu veut aller au maximum. Au maximum. De chaque chose qu'il a mise en nous. Vous savez, il y a des messieurs comme Philippe, le frère Philippe, dans les Actes des Apôtres. Il était diacre dans l'église. C'est très bien cette fonction de diacre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé la persécution. Et Philippe se retrouve en Samarie. Et quand il se retrouve en Samarie, dans Actes des Apôtres chapitre 8, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 8. Le diacre Philippe se retrouve en Samarie. Lui, il était habitué à... On les avait mis entre autres pour distribuer la nourriture, hein. Donc là, il y a des gens qui vont devenir gestionnaires de la nourriture. Donc tu ne touches pas la nourriture, c'est lui, on l'a mis diacre. Mais Dieu veut t'amener loin. Donc l'histoire de diacre, c'était l'entraînement, c'est tout. Mais il y a des gens qui vont s'accrocher là. Ils ne bougent pas. Je suis diacre. Non, Dieu veut aller plus loin. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 8. Saul approuvait le maître de Tienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or, Saul ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés aller de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Maintenant, c'est le diacre Philippe qui entre en action. Philippe descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. On nous dit que Philippe qui était diacre quand il était avec les apôtres, et on sait que c'est les apôtres qui enseignaient, c'est pas Philippe, hein. C'est les apôtres qui enseignaient, c'est les apôtres qui prêchaient. Eux, ils avaient été mis, puisque les apôtres avaient dit, nous, on ne peut pas en même temps enseigner, prier pour les gens, prier le Seigneur, et en même temps distribuer la nourriture, ça fait trop pour nous, et ça va nous faire de la distraction par rapport à la tâche de l'enseignement, qui est une grande tâche, bien-aimé. Il dit, bon, il faut choisir des diacres qui vont s'occuper de la distribution de nourriture, de tout ce qui est logistique. Et Philippe était parmi ces diacres-là. Mais là, regardons ce qui se passe. Finalement, il y a persécution et Philippe se retrouve en Samarie seul. Eh bien, il prêche Christ. Il était habitué à distribuer la nourriture physique, maintenant il va distribuer la nourriture spirituelle. Il a saisi que maintenant... Voilà, il faut que je prêche Christ. Je ne veux pas être là à chercher encore, aller chercher encore une église, donner son CV. J'étais diacre avant. Bon, maintenant, on fait comment? Et dans beaucoup d'églises, quand tu viens avec ton CV comme ça, on te nomme encore. C'est n'importe quoi, bien-aimé. C'est le travail qui compte. Parfois, quelqu'un lui-même il s'est autoproclamé pasteur quelque part. Et il vient dans une nouvelle église et il dit, j'étais pasteur avant. Et là-bas aussi, on les reconnaît pasteurs. Non, nous, même si tu crachais le feu, tu sautais les immeubles, tu viens au milieu de nous, nous voulons te voir d'abord au travail. C'est le travail qui dira qui tu es. Ce n'est pas un CV. Et là, Philippe arrive. Il ne s'est pas dit, tiens, moi, c'était la nourriture. Non, il avait reçu les enseignements. Les enseignements disaient, allez faire de toutes les nations des disciples. Les enseignements disaient, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Les enseignements, quand quelqu'un est rempli, il cherche à sortir. Il était rempli de Christ, alors il a sorti Christ aux autres. Il est écrit, les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. À Jérusalem, ils étaient nombreux. On se souvient de la Pentecôte, ils étaient 120 dans la chambre haute. Les langues sont descendues, c'est vrai, sur les 12, mais ils étaient 120. Et on peut comprendre en disant, mais tiens, ils étaient 120, ils étaient 12, ils ont fait feu à Jérusalem. Mais là, Philippe est tout seul. Tout seul. Entre guillemets, donc, il fait plus que beaucoup d'autres. Alors que à Jérusalem, il était diacre. Mais il a compris que notre Dieu est infini. Tout ce qu'on fait est un entraînement pour une autre étape. Rester dans l'entraînement, à s'accrocher à des choses, à des postures, à des postes, c'est pas bien. C'est du relâchement, c'est de la négligence. Tu te contentes à ta famille, tout le monde est chrétien, et en plus ta famille est restreinte, donc tout le monde est chrétien, c'est bon. Il vous reste à trouver un bon travail, une bonne maison, et puis maintenant, allez, vivement Disney, de temps à autre, Bocasse, ainsi de suite. Non, bien-aimé, notre vie doit être consacrée à Dieu au maximum. Si tu es guitariste, ben, tu dois aller plus loin. Tu peux apprendre un autre instrument. Tu peux former quelqu'un. Il faut que tu t'allonges, il faut que tu t'agrandisses. Parce que quand tu as formé quelqu'un, tu t'es agrandi. C'est comme si tu es devenu double. Dieu nous appelle à cela, aller toujours au maximum, jamais s'arrêter. Et Philippe est parti au maximum et les foules l'ont suivi. Il est écrit au verset 8, j'aime beaucoup ce verset-là, et il y eut une grande... Non, déjà verset 7, car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Il y eut une grande joie à Samarie. Parce que Philippe s'est lâché. Il a laissé Dieu le gérer. Et il a produit la joie dans toute une ville. Mais tu peux produire la joie dans toute une ville. Dans toute une vie. Hier, je me suis... Voilà, je dis... Que le Seigneur me pardonne, je le dis. Mais on a reçu un invité surprise et je n'avais même pas un CD pour lui donner. Je dis, mais normalement, dans chacune de nos maisons, il doit y avoir des CD, des choses au cas où on peut recevoir quelqu'un. On doit toujours aller loin, on ne doit pas s'arrêter quelque part, on doit toujours combler le vide dans le travail. Donc là où on doit faire quelque chose, on fait toujours, on va loin. Beaucoup se sont arrêtés et c'est pourquoi le diable les a eus. Ils se jouent à la guitare, ils restent à la guitare. Alors qu'on peut apprendre aussi le piano, on peut apprendre aussi le synthé. Si tu es musicien, ce n'est pas pour être bloqué dans un instrument. On ne dit pas qu'on fasse le désordre, on commence à tout apprendre dans le désordre. Non, on se perfectionne, mais on ne doit pas s'arrêter quelque part, on doit toujours aller plus loin. On doit savoir arranger le chant. On doit toujours aller plus loin. Tu prêches, mais tu dois aller plus loin. Visiter les gens. Parler du Seigneur. Dieu veut nous utiliser au maximum, frères et sœurs. Les histoires de moitié, Dieu n'est pas dans ça. Médiocrité, il n'est pas dans ça. Nous connaissons la fameuse histoire non, de l'église d'Éphèse, d'Apocalypse chapitre 2. On va lire. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Donc quand on s'arrête au verset 3, on se dit voilà l'église parfaite. L'église parfaite, pourquoi ? Il y a le travail. Pas de problème dans le travail. Évangélisation, prière, pas de problème. Il y a la persévérance. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Pas de problème. Ces gens-là continuent à bosser malgré la difficulté. Mais je sais même que tu es tellement droit que tu ne supportes pas les méchants. Félicitations encore. Tu as même confondu certains faux apôtres. Gloire à Dieu. Tu es allé même jusqu'à souffrir à cause de mon nom. C'est-à-dire que malgré la persécution, tu restes chrétien. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a encore à reprocher à une telle église ? Tout est parfait. Mais non, voilà, tu as perdu le premier amour. Au fait, tu fais les choses par habitude. Tu fais les choses parce que tu t'es inscrit dans ça. Mais tu ne le fais plus avec le zèle du début où tu avais l'impression que ta vie, c'était ça. Là, aujourd'hui, tu fais les choses parce que tu as le titre de pasteur. Tu as le titre de diacre. Tu le fais pour ça. Tu le fais parce que tu es un chrétien engagé dans l'équipe, dans une équipe de louange, dans une équipe quelconque. Les gens, tu as peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser par rapport à tes absences ou quoi que ce soit? Alors tu viens parce que tu dois défendre un rôle. Mais avant, tu le faisais dans un esprit de combattant, dans un esprit d'amour à 100% pour Dieu. C'est ce que Dieu veut. Où on se dit, Seigneur, je veux vivre. Et ma vie, c'est te servir. C'est cela. Ce n'est pas pour paraître quelqu'un. Ce n'est pas pour que les gens me voient. Je le fais d'ailleurs sans que les gens me voient. Quand Philippe était seul à Samarie, personne ne le voyait. Il a commencé à prêcher Christ et Dieu s'est glorifié. Ce n'est pas parce qu'on fait les choses que Dieu est content de nous. Dieu veut qu'on fasse les choses avec amour, au maximum. Au maximum. C'est vrai qu'on entend des bruits à gauche, à droite. Ah, mais oui, mais il faut savoir se reposer. Il faut. Bien-aimé, vous connaissez ma position là-dessus. Je dis, premièrement, la question du repos, ça se réglera au ciel. Là, il y a un grand lit qui m'attend avec un grand sofa, comme on dit, un grand hamac. Ça nous attend là-bas. Deuxièmement, nous sommes faits de matière, c'est vrai, on doit se reposer, mais Dieu sait plus que nous qu'on doit se reposer. Il va nous créer des temps de repos. Ce n'est pas à nous, à nous-mêmes, de faire des calculs humains de repos. Le Saint-Esprit, il est écrit, il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira aussi dans le repos. Nous voulons le repos, mais le repos qui vient de Dieu. Non pas fait par l'intelligence humaine qui calcule, maintenant je fais ceci, maintenant je dois faire cela. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit imposer le repos. Voilà, bien-aimés, même Jésus, un jour, il a dit à ses apôtres, on va aller se reposer. Pendant qu'ils allaient se reposer, ils ont rencontré des gens qui venaient en foule pour écouter la parole. Jésus a annulé le repos. Ils ont servi les gens en leur donnant la parole de Dieu, la parole de vie qui sauve. Voilà. Le Seigneur sait qu'on doit se reposer, mais il veut qu'on lui appartienne, qu'on se consacre à lui, qu'on vive pour lui. Ça, c'est plus important que nos raisonnements. La gloire de Dieu agit dans un sacrifice offert totalement. Souvenez-vous, quand on a inauguré le tabernacle, ils n'ont pas allumé le feu. Ils ont mis les sacrifices et le feu est venu tout seul d'en haut. Parce que c'était un sacrifice complet, total. Nous, nous voulons la gloire. Et cette gloire viendra lorsqu'on comprendra, on comprendra que mais Dieu veut tout. Il veut tout. Il ne veut pas une partie. Il veut tout dans notre vie. Notre personnalité, notre honneur, notre corps. Il veut tout. Il veut tout. Nous devons faire attention, bien-aimés, à servir deux maîtres. Le diable veut nous amener toujours à servir deux maîtres. Dieu est quelque chose. Dieu est les études. Dieu est le sport. Dieu est ceci. Il veut toujours nous amener à servir deux maîtres. Nous devons être vigilants là-dessus. C'est l'Éternel qui doit être servi. Et le Seigneur sait nous donner autre chose. Il le sait. Il est bon. Mais il veut qu'on se donne au maximum. Quand on t'a donné une responsabilité, rends cette responsabilité. Travaille dans cette responsabilité au maximum, à tel point que les gens te voient dans ta responsabilité. Quand on t'a donné le ménage, les gens viennent, ils voient que les choses ont avancé. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un qui n'est pas dans ta responsabilité ait l'impression que lui, il en sera vraiment incapable. Quoi. Parce que tu fais les choses au maximum. Et quelqu'un d'autre, quand il te voit, il te dit, ah, ça sera trop compliqué pour moi. Effectivement, parce que tu as laissé Dieu au maximum te travailler, ça devient très compliqué pour quelqu'un qui n'a pas reçu cette onction-là, n'a pas reçu cette grâce-là. Mais moi, je dis souvent aux gens, lorsque quelqu'un qui n'est pas vraiment dans ton équipe commence à critiquer ton équipe, c'est que vous avez un problème. En général, quelqu'un qui n'est pas dans une équipe doit trouver que ce que fait une équipe est très, très, très élevé pour lui. Mais lorsque les gens, les simples citoyens commencent à dire « Ah ben là, il y a un défaut, là il y a un défaut, demain, on sait que les gens peuvent murmurer aussi pour n'importe quoi, mais c'est pas, on ne parle pas de ça. On parle vraiment des défauts vrais. Ils commencent à trouver un défaut là, un défaut là, un défaut là, mais lui n'est même pas dans votre équipe. Il n'a même pas votre grâce. Ça veut dire que vous ne faites pas bien le travail. Il faut faire attention. Normalement, quand on fait bien le travail, un étranger va avoir l'impression que c'est trop difficile. Mais quand les étrangers commencent à voir que mais, là, il y a l'erreur ici, il y a l'erreur là. Combien de fois, moi je vois par exemple, quand on peut voir des concerts de la musique chrétienne, je peux comprendre que là, le guitariste a dû au batteur telle chose. Mais quelqu'un de normal ne va pas comprendre que c'était un signal. Mais c'est parce que c'est ton boulot que tu comprends ça. Mais quand maintenant les gens du dehors commencent à comprendre, ah mais là le musicien a fait telle erreur. Là le guitariste a fait telle erreur. Ah donc là il y a un problème. Ça veut dire que tu ne fais pas bien le travail. Nous devons faire le travail au maximum, à tel point que quelqu'un qui n'est pas de notre circuit va avoir l'impression que c'est trop élevé pour lui. Et c'est la vérité. Parce que Dieu travaille tellement avec vous, c'est votre grâce, et les autres n'ont pas reçu forcément cela parce que ce n'est pas leur domaine. Mais quand les autres commencent à découvrir que, ah, mais non, mais il y a telle erreur dans ceci, telle erreur dans cela, ça devient régulier, ça veut dire que quelque part, tu t'es relâché dans le travail. Tu t'es contenté du minimum syndical. Non. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas nous contenter du minimum syndical. Nous devons toujours aller à la perfection. De sorte que, quand quelqu'un de l'extérieur voit ce qu'on fait, il soit dépassé. Et c'est ce qu'on a vu dans les Actes des Apôtres. Le peuple qui les voyait était dépassé par l'amour, était dépassé par les miracles, était dépassé par l'unité, était dépassé par tout ça. Et c'est comme ça qu'il y avait beaucoup de conversions. Les gens disaient, mais ils ont quelque chose que nous, on ne peut pas avoir. Ils sont trop au-dessus. Mais combien on entend aujourd'hui les païens oser critiquer les chrétiens par rapport à l'amour? Combien on n'entend pas aujourd'hui un chrétien qui a fermé la main alors qu'il fallait donner dans une famille et c'est le païen dans la famille qui va donner? Et tout le monde se moque. Mais lui, il se dit pasteur, mais lui, il se dit ceci. Voilà. Parce que le chrétien ne va pas au maximum. Il se dit, j'ai accepté le Seigneur, je vais dans une église, j'ai un poste, c'est bon. Mais non, il faut aller au maximum dans ta famille, qu'on voit la lumière, qu'on voit la gloire, qu'on voit la différence. Quand les païens commencent à découvrir nos défauts, ça veut dire qu'on ne va pas au maximum. On ne va pas au maximum. On doit aller au maximum. De l'amour, maximum du sacrifice, maximum dans le service. C'est très important, bien-aimé. Même les gens, moi j'ai vu quelques trucs, par exemple, les gens qui préparent des chants, mais il faut préparer les chants, les jours spéciaux là, il faut préparer les choses sérieusement. C'est l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas dire, ah ben c'est pas grave, au milieu des gens, des enfants de Dieu, il n'y a pas de stars, on fait comme on veut. Ah non, 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 c'est vrai. D'ailleurs, nous, dans notre chorale, nous recrutons tout le monde. Celui qui ne sait pas chanter, celui qui sait chanter, tout le monde peut venir. Mais du moment que tu es venu, on va travailler sérieusement. Puisque c'est l'œuvre de Dieu, nous devons aller jusqu'au maximum. On va pas se dire, ah mais comme c'est les histoires des églises, on fait comme ci, comme ça. Non, c'est faux. Il faut que quand quelqu'un qui est de l'étranger voit ce qu'on fait, il réalise qu'il y a une gloire là, la grâce de Dieu là, et que pour eux c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas reçu cette grâce là. Dieu ne veut pas qu'on se relâche, il veut qu'on aille au maximum. Et quand vous voyez, la parole de Dieu n'est faite que de ça. Dieu qui permet que Goliath vienne, parce qu'il veut que les enfants de Dieu ne se contentent pas d'une victoire normale où c'est le nombre de soldats qui va faire la différence, la stratégie militaire. Il veut qu'on aille plus loin. Un homme de 3 mètres soit vaincu par un homme d'1,70 m. Voilà. Quelque chose d'impossible, mais l'enfant de Dieu trouve la victoire dans ça. C'est pourquoi Dieu a toujours permis de telles situations, parce qu'il veut que ses enfants... Parce que quand on prend ce risque-là d'aller affronter un homme de 3 mètres, on a pris le risque de la mort. Donc on s'est offert totalement pour que Dieu nous utilise au maximum. Bien-aimés, beaucoup cherchent la puissance, mais vous ne l'aurez pas tant que vous refusez de vous offrir totalement. Dieu agit dans les personnes qui s'offrent totalement. David a risqué sa vie, c'est pourquoi il a pu battre Goliath. Les autres ne voulaient pas, ils préféraient un combat, beaucoup de soldats contre beaucoup de soldats, on ne sait pas trop, bon, on se cache et puis on lance une flèche. Non, Dieu a voulu un combat risqué où tu risques ta vie. Et là, lui se manifeste. Tu lui offres ta vie, lui se manifeste. Tu lui donnes le maximum, lui aussi t'amène au maximum. Nous devons aller au maximum, frère. Nous ne devons pas nous contenter d'un poste qu'on a reçu. C'est un entraînement pour aller plus loin. Il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec lui nous allons de gloire en gloire. C'est ce que nous devons viser. C'est très important, bien-aimé. Quand on nous a appris qu'on nous crée des problèmes par rapport à cette salle, le Saint-Esprit m'a dit, vous n'avez pas besoin d'une salle, vous avez besoin de ma puissance. Voilà. Dieu veut nous donner plus qu'une salle, il veut nous donner un pays. Et après plusieurs pays. Un pays, c'est plus grand qu'une salle. Il y a des gens qui vont pleurer pour une salle. Mais une salle, mais Dieu veut donner un pays. Il faut aller au maximum. On veut prendre la salle, qu'on prenne la salle. Nous, on veut le pays maintenant. C'est tout. On te prend une paire de chaussures, tu laisses. Toi, tu veux 10 maintenant. Avec Dieu, on va toujours au maximum. Mais ça demande à ce que nous-mêmes, on se livre au maximum. Voilà ce que Dieu, dans quoi il veut qu'on entre cette année. Les histoires de rester accrochés à un poste, à une façon de faire, non. Le Seigneur veut secouer, qu'on aille plus loin. Comme il avait secoué les gens des Actes des Apôtres, Philippe qui était diacre est parti faire des exploits extraordinaires. Des foules se sont converties. Il a accepté d'aller plus loin avec Dieu. N'attendons pas la persécution pour aller plus loin. Prenons conscience et de nous-mêmes, dans chacun des territoires où nous travaillons, nous cherchons à faire amener les choses plus loin. Et quand on a presque tout fait, ben on forme d'autres personnes. On les laisse, nous on va plus loin encore. Amen. Seigneur, merci de nous aider par ton esprit à aller plus loin, à ne pas rester au même niveau, à ne pas demeurer dans la routine et devenir de vétérans dans des trucs sans innovation, sans gloire. Nous refusons cela, Seigneur. Nous voulons aller plus loin. Plus loin que cette salle. Nous voulons aller plus loin. Plus loin que ce que nous pensons de nous-mêmes ou ce que les gens pensent de nous. Parce que toi, Dieu, tu es infini, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à tout donner, à nous offrir entièrement, afin que tu nous utilises au maximum. C'est ça notre désir, Seigneur. Au maximum. Au maximum. Oh, Seigneur. C'est toi qui le dis. Quelqu'un qui ne veut pas le maximum, c'est comme quelqu'un qui détruit. Nous ne voulons pas faire partie des maudits, des gens qui se relâchent et qui sont maudits, Seigneur. Nous voulons faire partie des bénis, des gens qui croient en ta puissance, qui croient que tu es infini et qui demandent des choses que leur raisonnement même ne peut pas demander tellement c'est élevé. Mais c'est parce que c'est à ta dimension. Seigneur, que nous fassions des prières qui nous dépassent nous-mêmes, que nous demandions des choses qui contredisent notre raisonnement, Seigneur, mais qui, parce que c'est tellement élevé pour la tête humaine. Mais toi, tu es tout puissant, Seigneur. Nous voulons t'honorer en demandant des choses à ton niveau, et non pas en demandant parce que nous pensons plus ou moins nous débrouiller pour réussir le coup, Seigneur. Ô Éternel, pardonne-nous la négligence et pardonne-nous le fait de te sous-estimer et d'avoir peur du lendemain, Seigneur. Nous te faisons confiance. Ô Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous savons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie et nous irons de gloire en gloire avec toi. Seigneur, nous, nous avons choisi d'aller au maximum. Même quand notre chair est faible, notre choix est justifié par le fait que c'est toi qui vas nous donner la force. C'est parce qu'il est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous sommes faibles, mais toi, tu es tout puissant. Et à cause de ça, Seigneur, nous te disons le maximum nous voulons, Seigneur. Alléluia. Accomplis cela en nous, Seigneur Jésus. Seigneur, que nous ne puissions pas te freiner, te sous-estimer, ni te refuser de te donner certains domaines de nos vies, Seigneur. Prends tout, Seigneur, dans ton amour, dans ta bonté, dans ta puissance. Merci, Seigneur, de sanctifier tout ce que nous allons prendre. Et nous prions que demain soit une grande journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un grand sujet de joie dans le jeûne et la prière. Au nom de Jésus. Amen.